Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. Diffusion en français. La voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie au monde.
Bonsoir chers auditeurs, ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, la mise au point de la semaine et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Bonsoir les auditeurs de Voice of Indonesia, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre. L'Indonésie et les États-Unis renforcent leur collaboration dans l'éducation et l'enseignement des langues. Le Brésil commence à mettre en œuvre le blocage X. Le président du DPR construit des relations plus inclusives entre les parlements indonésiens et africains. Le président félicite Sabtoyogo Purnomo pour avoir réussi à battre le record d'Asie. Concernant les gants au Japon, le ministère des Affaires étrangères exhorte les citoyens indonésiens à obéir aux normes locales. Bon, chers auditeurs, voici le journal en complet. Le ministre de l'Éducation, de la Culture, de la Recherche et de la Technologie, Nadim Anwar Makarim, a reçu directement la visite de l'ambassadrice des États-Unis, Kamala Shirin Lahdir, pour discuter des efforts visant à renforcer la coopération entre les deux pays dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement, des langues et culture. Comme l'a rapporté Antara à Jakarta samedi, cette visite était l'une des premières d'une série de visites de l'ambassadrice Kamala dans un certain nombre d'agences gouvernementales depuis le début de sa mission en Indonésie au début du 2024. Nadim a déclaré que l'Indonésie appréciait le soutien du gouvernement des États-Unis pour faire d'un certain nombre d'initiatives lancées par Merdeka Belajar un succès. Selon lui, de plus en plus d'étudiants indonésiens étudient actuellement au campus réputé aux États-Unis. Coïncidant avec la célébration des 75 ans de relations diplomatiques entre l'Indonésie et les États-Unis qui tombe cette année, l'ambassadrice Kamala a révélé que l'une de ses missions était cette fois d'explorer les opportunités d'élargir la coopération, notamment dans le domaine de l'éducation entre les deux pays. L'ambassadeur Kamala espère qu'à l'avenir, non seulement les universités avec les milieux classés pourront collaborer avec l'Indonésie, mais qu'elles incluront également d'autres universités américaines qui ont des avantages dans certains domaines scientifiques. Outre la coopération dans les domaines de la langue et de l'enseignement supérieur, la coopération dans le domaine culturel a également été discutée lors de la réunion. Le blocage du réseau social X d'Elon Musk au Brésil est entré en vigueur tôt samedi matin après qu'un juge de la Cour suprême a ordonné sa suspension. Selon l'AFP à Jakarta samedi, le juge de la Cour suprême du Brésil, Alexandre de Moraes, a ordonné vendredi la suspension de la plateforme après un différend de plusieurs mois avec le milliardaire de la technologie concernant la désinformation dans le plus grand pays d'Amérique du Sud. Moraes a rendu cette décision après que Mas ne se soit pas conformé à une ordonnance de nomination d'un nouveau représentant légal pour l'entreprise. OCAX, anciennement connu sous le nom de Twitter, n'était plus disponible samedi matin pour certains utilisateurs de ce pays d'Amérique du Sud qui ont reçu des messages leur demandant de changer leur navigateur sans réussir à se connecter. Moraes a ordonné la suspension immédiate, totale et complète des opérations de X dans le pays, demandant à l'Agence nationale de communication de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter l'ordre dans les 24 heures. Il a menacé d'imposer une amende de 50 000 reais, environ 8 900 dollars, à toute personne utilisant des astuces technologiques pour contourner le blocage comme le VPN. Le président de la Chambre des représentants indonésienne, Puan Maharani, a souligné l'importance de construire des relations plus inclusives entre le Parlement indonésien et les pays africains à travers la tenue du Forum parlementaire Indonésie-Afrique à Bali. Tel que rapporté par Antara à Jakarta samedi, lors d'un dîner de bienvenue à la délégation du Forum parlementaire Indonésie-Afrique, ou abrégé en IAPF à Badung, Bali, Puan Maharani a déclaré que IAPF ouvrirait un nouveau chapitre dans les relations entre l'Indonésie et l'Afrique et pourrait renforcer une amitié plus profonde entre les deux parties. Selon Puan, les relations de l'Indonésie avec les pays africains ont une longue histoire et se sont renforcées depuis la conférence Asie-Afrique à Bandung en 1955. Cependant, la relation entre les deux pays ne se limite pas seulement aux relations historiques, mais aussi à la manière dont ils explorent les opportunités de coopération à l'avenir. Le dîner auquel ont participé toutes les délégations des pays africains faisait partie d'une série d'événements de IAPF organisés à Bali du 31 août au 2 septembre 2024. Le dîner comprenait des délégations parlementaires d'Algérie, d'Angola, du Bénin, du Burundi, de Djibouti, d'Eswatini, du Ghana, du Kenya, du Malawi, de Maurice, du Maroc, du Nigeria, de Tanzanie, de Tunisie, du Zimbabwe, d'Éthiopie, de Libye, du Mozambique, de Somalie et d'Afrique du Sud. Le président Joko Widodo a félicité les réalisations de l'athlète indonésien Sabto Yogo Purnomo aux Jeux paralympiques de Paris 2024 et son succès en battant le record asiatique. Sur son compte de réseau social Instagram, surveillé dimanche depuis Jakarta, le président a déclaré que la médaille d'argent remportée par Sabto Yogo Purnomo, avec un temps de 11,26 secondes, a rendu le nom de l'Indonésie encore plus brillant. L'athlète indonésien Sabto Yogo Purnomo a remporté une médaille d'argent aux Jeux paralympiques de Paris 2024 après avoir enregistré un temps de 11,26 secondes lors de la finale de 100 mètres masculin au classement T37. Dans le communiqué officiel du Comité paralympique indonésien, Sabto Yogo n'a en fait que l'objectif d'une médaille de bronze aux Jeux paralympiques de 2024, où la même médaille que celle qu'il a remportée aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020. Un temps de 11,26 secondes a permis à Sabto Yogo de remporter une médaille d'argent tout en battant le record asiatique qu'il avait établi aux Jeux paralympiques asiatiques de 2022. À cette époque, Sabto Yogo a remporté une médaille d'or avec un temps de 11,28 secondes. Le ministère indonésien des Affaires étrangères encourage les citoyens indonésiens à l'étranger à respecter les normes culturelles locales et à ne pas prendre d'actions susceptibles de perturber les activités des citoyens. Cité par Antara à Jakarta dimanche, cet appel a été transmis dimanche par le directeur de la protection des citoyens indonésiens et du BHI au ministère indonésien des Affaires étrangères, Judah Nugraha, en réponse à l'information selon laquelle un groupe de personnes soupçonnées d'être des citoyens indonésiens formés en gang à Osaka, au Japon, perturbant ainsi potentiellement l'ordre. De nombreuses vidéos montrant les activités du groupe sont devenues virales sur les réseaux sociaux. L'une des vidéos montre un groupe de personnes rassemblées dans des établissements publics d'Osaka bloquant la rue. En dehors de cela, un certain nombre de comptes des réseaux sociaux soupçonnés de représenter ce groupe ont également été découverts. Selon Judah, l'ambassade d'Indonésie à Tokyo et le consulat général d'Indonésie à Osaka enquêtent actuellement sur la véracité et l'exactitude de ces informations. Pour cette raison, il assurait que les représentants indonésiens avaient communiqué avec la communauté indonésienne au Japon. Judah a également rappelé aux citoyens indonésiens qui se trouvent à l'étranger de maintenir l'ordre dans les établissements publics et de se conformer aux habitudes de la communauté locale. C'est tout le journal d'aujourd'hui. Bonsoir à tous. Voici la mise au point de la semaine, dont le titre est « L'intervention d'urgence de l'OMS en Indonésie contre la Mpox ». Le président Joko Widodo a ordonné à ses collaborateurs de sensibiliser davantage à la propagation de la variole du singe ou monkeypox ou Mpox en Indonésie. Il a transmis en président une réunion restreinte du cabinet au palais présidentiel de Jakarta mardi dernier. Le 14 août 2024, l'Organisation mondiale de la santé, ou OMS, a déclaré le Mpox une urgence sanitaire mondiale. L'OMS avait précédemment fixé le même statut en 2022. Je demande également notre plus grande prudence, notre vigilance face à la propagation de l'épidémie de Mpox. Parce que ce que je lis, c'est que le cas de Mpox augmente au Congo. Et il y a également la deuxième désignation de Mpox comme urgence publique de portée internationale par l'OMS. Le président a ordonné à ses collaborateurs d'accroître la surveillance du Mpox aux entrées, en particulier dans un certain nombre d'aéroports internationaux d'Indonésie. Le président a également demandé à ses collaborateurs de préparer immédiatement les protocoles sanitaires nécessaires pour empêcher la propagation du Mpox dans le pays. Un contrôle au point d'entrée pour les arrivées internationales sera également effectué immédiatement par le ministère de la Santé et éventuellement par d'autres ministères ou agences. Les mesures préventives nécessaires dues à l'expérience de la précédente pandémie de COVID peuvent servir de référence. Je demande donc que des protocoles sanitaires soient immédiatement créés et socialisés à grande échelle. Pendant ce temps, le ministre de la Santé, Budi Gunadi Sadikin, a expliqué que l'émergence du clade 1B en Afrique était le principal facteur du changement du statut d'urgence de Mpox par l'OMS. Pour répondre à cela, selon lui, l'Indonésie réactivera le système de détection précoce des maladies infectieuses afin de prévenir l'importation de la maladie Mpox dans le pays. Selon le ministre de la Santé, Budi Gunadi Sadikin, cet effort est une stratégie de surveillance adoptée par le gouvernement en réponse à l'émergence de la dernière souche Mpox appelée 1B, car elle risque plus d'être mortelle que sa souche prédécesseur 2B. Cet effort est réalisé selon la méthode de la carte de surveillance électronique. Le ministre Budi Gunadi Sadikin a expliqué que chaque personne venant de l'étranger scannera un code à barre ou un code QR qui enregistre l'historique des voyages avec des notifications jaunes, vertes et rouges. Le ministre de la Santé Budi Gunadi Sadikin a ajouté que le gouvernement indonésien avait également importé du Danemark 1000 doses de vaccin Mpox. Il a également veillé à ce que tous les hôpitaux de Bali et de Jakarta soient équipés des médicaments nécessaires. Le gouvernement indonésien s'intéresse actuellement à la province de Bali car il organisera le deuxième forum Indonésie-Afrique du 1er au 3 septembre 2024 à Nusa Dua. Ce forum se tiendra également en conjonction avec le forum de haut niveau sur les partenariats multipartites.
We'll be right back. khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia, yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya.
Les auditeurs de Voice of Indonesia, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 1er septembre. On commence par le 1er septembre 1923, le tremblement de terre à Kanto, Japon. Le grand tremblement de terre de Kanto a frappé la plaine de Kanto sur l'île principale de Honshu au Japon à 19h23, samedi, le 1er septembre 1923. Divers rapports indiquent que la durée du tremblement de terre a été comprise entre 4 et 10 minutes. Ce séisme avait une magnitude de 7,9 sur l'échelle des moments. Le nombre de morts et de disparus s'élève à plus de 105 000 personnes et les victimes évacuées à plus de 1 900 000 personnes. Ce tremblement de terre a détruit 109 000 bâtiments. Le 1er septembre 1961, la première conférence du mouvement des non-alignés. Le mouvement des non-alignés est une organisation internationale composée de plus de 100 pays qui se considèrent comme alignés sur aucune puissance majeure. Ce mouvement s'oppose à l'impérialisme, au colonialisme, au néocolonialisme, à l'apartheid, au racisme et à toutes les formes d'agression militaire, d'occupation, de domination, d'ingérence ou d'hégémonie et s'oppose à toutes les formes de blocs politiques. Le mouvement des pays non alignés a débuté avec le sommet Asie-Afrique, une conférence tenue à Bandung en Indonésie en 1955. Là, les pays qui ne se sont pas rangés du côté d'un bloc particulier ont déclaré leur désir de ne pas s'impliquer dans une confrontation idéologique entre l'Ouest et l'Est. Les fondateurs de ce mouvement étaient 5 dirigeants mondiaux, Josip Broz Tito, président de la Yougoslavie, Sukarno, président de l'Indonésie, Gamal Abdel Nasser, président de l'Égypte, Pandit Jawaharlal Nehru, premier ministre de l'Inde, et Kwame Nkrumah, du Ghana. Le mouvement des non-alignés a tenu son premier sommet à Belgrade, en Yougoslavie, du 1er au 6 septembre 1961. C'est lors de cette première conférence que le mouvement des non-alignés est officiellement né. Le 1er septembre 1963, l'Institut agricole de Bogor a été fondé. L'Institut agricole de Bogor est un établissement d'enseignement supérieur agricole qui est historiquement formé à partir d'établissements d'enseignement secondaire et supérieur agricole et vétérinaire qui ont vu le jour au début du XXe siècle à Bogor. Avant la Seconde Guerre mondiale, ces établissements d'enseignement secondaire étaient connus sous le nom de Middelbare Landbouw School, Middelbare Bosbouw School et Nederlands Indisch Werften School. Le 1er septembre 1963, le premier président indonésien, Insinyur Soekarno, a posé la première pierre de la construction du campus et a également marqué l'inauguration de l'Institut agricole de Bogor en tant qu'établissement d'enseignement supérieur indépendant. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Yakin masih ada sisa wangiku di bajumu. Namun kau tampak baik saja, bahkan senyummu lebih lepas. Sedang aku di sini hampir gila. Kita tak temukan jalan. Sepakat akhiri setelah beribu debat panjang.
Indonesia. Voilà la chanson de pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et 4755 kHz. Et voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous. Mon Indonésie d'aujourd'hui est intitulé Les costumes des athlètes paralympiques utilisent le concept de Sandhya Niskala. Le dessinateur Didit Maulana a évoqué le concept Sandhya Niskala pour concevoir des costumes pour les athlètes paralympiques indonésiens participant aux Jeux paralympiques de Paris 2024 du 28 août au 8 septembre. Sur le site internet du ministère de la Jeunesse et des Sports à Jakarta, mercredi, Didit Maulana a révélé que le dessin s'intitulait Sandhya Niskala, ce qui signifie né de la force, du courage et de la détermination de ne jamais abandonner des athlètes paralympiques indonésiens. Selon lui, on espère que Sandhya Niskala deviendra un symbole de motivation et d'unité, soutiendra l'esprit sportif et célébrera les réalisations de chaque athlète indonésien qui participera aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Il a en outre expliqué que la collection met l'accent sur le sens de l'unité inspiré par l'Indonésie en tant que pays archipel aux cultures diverses mais toujours unies comme dans la philosophie de Bhinneka Tunggal Ika. Il y a un motif géométrique avec des rainures comme des vagues qui représente l'Indonésie comme un pays archipélagique, tandis que le motif symbolise la lutte et l'optimisme des athlètes. Les motifs présentés à poursuivi Didit intègrent également des éléments de l'oiseau Garuda sous forme de plumes et des éléments tissage reliure qui représentent la richesse de la culture indonésienne. Ce motif signifie également l'unité et l'intégrité de la nation indonésienne. Didit Maulana a ajouté que les éléments indonésiens étaient également clairement visibles dans les combinaisons de couleurs utilisées. Outre le rouge et le blanc, comme couleur du drapeau indonésien, Didit a également présenté la jaune dorée qui symbolise la splendeur et la gloire. La combinaison de couleurs et de motifs donne un costume sportif et plein d'enthousiasme, mais néanmoins élégant. Pour produire ces costumes, Didit Maulana a collaboré avec MIALS, le ministère de la Jeunesse et des Sports et le Comité National Paralympique Indonésien. Voilà mon Indonésie.
Hidupku pernah jatuh hancur dan runtuh. Ucap syukurku kalian setia menyayangi. Tangis bahagia perlahan hadir hapus pilu. Indah memori tersimpan banyak rindu. Tuhan aku percaya semua sudah jalannya. Tenang jiwaku kini sampai jumpa. Selesai sudah kisahku kan jadikan. Lama bernafas, hidupku penuh hangat cinta. Kan ku lukiskan senyuman haru dari jauh. Taman bahagia, kini surga baruku. Tuhan aku percaya, semua sudah jalan. Yeah.
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésie, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, Parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme croncong, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La Voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4755 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Chers auditeurs, outre les destinations touristiques naturelles et culturelles très enchanteresses de Sumba, cette belle île de la province de Nusa Tenggara de l'Est propose également plusieurs plats et boissons typiques qui sont délicieux et deviennent aussi les favoris des visiteurs. L'un des délices culinaires typiques de Sumba que vous devez essayer est le Kadapet Watara. Kadapet Watara est un type de collation originaire de Sumba. Le Kadapet Watara est un gâteau sec à base de maïs, de bananes et d'un mélange de cacahuètes moelleuses et de sucre. Ses principaux ingrédients sont mélangés pour former une pâte qui est ensuite transformée en une forme ronde. Ce qui différencie ce gâteau Kadapet Watara, typique de Sumbanaise, des autres gâteaux secs, c'est qu'une fois la pâte formée, elle est ensuite enveloppée dans des feuilles de maïs séchées. Son goût délicieux convient très bien à ceux qui aiment les gâteaux sucrés. Bon, chers auditeurs, en plus d'être célèbre pour son goût délicieux et sucré, Kadapet Watara est également célèbre pour sa façon unique de comment le produire. Cette technique de fabrication de gâteaux est connue depuis l'Antiquité et continue de se transmettre de génération en génération jusqu'à nos jours. Pour cela, de nombreux touristes essayent d'apprendre comment le produire auprès des habitants des environs de Sumba. Auparavant, le gâteau Kadapet Watara n'était qu'un plat culinaire maison ou était préparé pour animer un grand événement, tel qu'un événement traditionnel ou une célébration dans la région de Sumba. Mais maintenant, le gâteau Kadapet Watara est devenu l'un des souvenirs typiques de Sumba. Il est même devenu un souvenir incontournable pour les touristes visitant Sumba. C'est tout le magazine culturel.
Mungkinkah, mungkinkah, Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari yang tiba-tiba mekar di taman. Meski bicara dengan bahasa tumbuhan, ceritakan padaku bagaimana tempat tinggalmu yang baru. Adakah sungai-sungai itu benar-benar dilintasi dengan air susu? Juga badanmu tak sakit-sakit lagi. Kau dan orang-orang di sana muda lagi. Semua pertanyaan temukan jawaban. Hati yang gembira sering kau tertawa. Benarkah orang bilang ia memang suka bercanda? Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari yang tiba-tiba mekar di taman. Meski bicara dengan bahasa tumbuhan, kan ku ceritakan padamu bagaimana hidupku tanpamu. Kangennya masih ada di setiap waktu. Kadang aku menangis bila aku perlu. Tapi aku sekarang sudah lebih lucu. Jadilah menyenangkan seperti katamu. Jalani hidup dengan penuh sukacita. Dan percaya kau ada di hatiku selamanya. Sekarang janji kita pastikan bertemu lagi.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, the Langdonesi au monde. La suite, écoutons la rubrique suivante, l'Indonésie en couleur. Bonsoir les auditeurs de Voice of Indonesia, voici l'Indonésie en couleur dont le titre est « L'Université d'Indonésie a remporté la première place au concours de design Ashrai 2024 ». American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineer, ou abrégé en ASHRAE, a de nouveau couronné l'équipe étudiante de la Faculté d'Ingénierie UFT de l'Université d'Indonésie UI comme premier champion. L'équipe a remporté le prix pour la catégorie SETI Family Foundation Net Zero Energy Design lors du concours de design ASHRAE 2024 à Atlanta, Géorgie, États-Unis. Ces étudiants de la FTUI, membres de l'équipe Alshin, ont réussi à surpasser 163 autres équipes avec une conception du bâtiment écologique qu'ils appellent Bromeliad Library. Depuis 3 années consécutives, les étudiants de UI ont toujours remporté cet événement. Ce projet met en avant un concept de bâtiment capable de réduire les émissions de carbone dioxyde et de répondre aux normes d'émissions nettes nulles. Afin d'atteindre cet objectif, ce bâtiment combine des stratégies passives et actives pour sa conception. Les stratégies passives incluent l'optimisation de la lumière naturelle, la réduction des gains des chaleurs solaires et des façades innovantes en terre cuite pour contrôler l'humidité. D'un autre côté, les stratégies de construction se concentrent sur la qualité de l'air, la gestion efficace de l'eau et l'éclairage économe en énergie. L'un des membres de l'équipe a expliqué que la bibliothèque Broméliade est équipée de plusieurs fonctionnalités supérieures telles que des capteurs de lumière solaire à LED et l'utilisation de la surface du toit pour une terrasse végétalisée et des panneaux solaires. Ce bâtiment dispose également d'un système de collecte d'eau et de brouillard capable de collecter jusqu'à 3,3 millions de litres d'eau de pluie et de rosée par an. Grâce à la mise en œuvre de ces stratégies et technologies, l'utilisation de l'intensité d'utilisation énergétique dans les bâtiments a été considérablement réduite, passant de 211 kWh par mètre carré à 87 kWh par mètre carré, réduisant ainsi la consommation d'énergie de 59%. Voilà l'Indonésie en couleur.
Terus mencari biar musim berganti. saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, voilà la chanson de pop indonésienne. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonsoir les auditeurs de Voice of Indonesia. Cette fois-ci, je vais parler d'une chanson de Lobo. Lobo Ilias ou Lobo est un chanteur indonésien. Son nom s'est fait connaître depuis la sortie de son premier single, intitulé Salah, qui est devenu la bande originale du film Chocolate Strawberry en 2007. Après cela, Lobo a été actif dans la création et la sortie d'albums en collaboration avec de grands musiciens tels que Pai, Fadli Padi et Dewik. Il y avait un vide dans le monde de la musique indonésienne car Lobo travaillait pour la plus grande société de films d'animation d'Indonésie comme l'illustration musicale du film d'animation Adit Sopo Jarwo. Lobo est désormais de retour en studio et poursuit sa carrière musicale. En 2024, Lobo a sorti une chanson avec le thème de l'amour dont les paroles, la musique et le sens sont très appropriées à la vie d'aujourd'hui. Le single intitulé « Malu Malu Mau » raconte du sentiment de honte que ressentent généralement tout le monde, y compris la génération Z. Leur monde est ainsi intéressant à toujours suivre. À travers cette chanson, Lobo espère que de nombreuses personnes seront aidées à exprimer des sentiments d'amour longtemps cachés. Bon, chers auditeurs, voici Lobo dont le titre est « Malu Malu Mau ». Bonne écoute!
Candu-candu memerayu, goda menggoda hasratku. Tak bisa ku mengalihkan candumu menggoda hati. Candumu menggoda
Voice of Indonesia.
Sepanjang perjalanan cintamu, kau bilang aku yang paling tangguh. Tapi mengapa kau tinggalkan aku dengan alasan yang tak jelas? Apa aku pernah mengeluh? Apa aku pernah berlari saat kau ada masalah? Apa aku pernah mendua? Apa aku tak mengimbangimu? Sayang, kau menilaiku salah. Sepanjang perjalanan cintamu, kau puji aku setiap waktu. Tapi kenyataannya berlawanan. Ku tak pernah ada baiknya. Apa aku pernah mengeluh? Apa aku pernah berlari saat kau ada masalah? Apa aku pernah mendua? Apa aku tak mengimbangimu? Sayang, kau
chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.